L'esprit critique. Mediapart.
Los Delincuentes est le nouveau film du réalisateur argentin Rodrigo Moreno qui signe là son 6e long métrage. Morane, la quarantaine, est employé de banque et décide de soustraire à son employeur non pas tout l'argent dont il aurait pu s'emparer, mais l'équivalent de ce que lui et son collègue Roman, qu'il inclut dans le projet contre son gré, pourraient toucher jusqu'à leur retraite. Morane a planifié son arrestation et va se dénoncer, sachant que pour un tel crime, la peine encourue est de 6 ans et de 3 ans et demi seulement s'il se comporte de manière exemplaire en prison. Il préfère ainsi quelques années derrière les barreaux, en dépit de la violence des caïds, plutôt que 2 décennies derrière les hygiaphones de sa banque.
Por eso no quiero trabajar más.
¿Qué pasa?
Te vine a proponer algo. Necesito que cuides ese bolso por 3 años y medio. Tiene 650 mil dólares. Hoy saqué el banco.
Le film s'engage ensuite avec une assez grande liberté de narrative dans des épisodes amoureux, champêtres, carcéraux pendant plus de 3 heures. Alors ce film parle d'argent pris à une banque, mais c'est pourtant presque l'envers d'un film de braquage qu'il propose. Comment détourne-t-il, inverse-t-il ce classique du genre cinématographique, Salima Tenfish ?
Oui, alors ce qui est assez plaisant avec Los Delincuentes, c'est qu'on commence, comme tu l'as dit, avec un genre filmique qui est celui du film de braquage, où on peut retrouver quelque chose de Un après-midi de chien de Sidney Lumet, par exemple, film des années 70. Mais immédiatement, on évolue vers toute une panoplie de genres filmiques qui nous éloignent de cet environnement étouffant qui est celui d'une banque dont on ignore d'ailleurs l'époque, puisqu'on n'a aucun élément qui nous permet de nous situer au début du film.
Et on pourrait croire qu'on est dans les années 70 et quand même, et puis après, en fait, ça pourrait être juste une Argentine un peu en crise.
Complètement. C'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'on est dans les années 70 parce qu'on a un décor qui nous emmène dans quelque chose de dans des couleurs marron, grises, qui est presque du Coris Maki, en fait. Il y a quelque chose comme ça d'étrange au début du film, voire des premiers Almodovar avec ces personnages en crise suite au braquage de l'un de leurs collègues, dont un qui fait une crise cardiaque ou qui est très inquiet, et tous ces personnages qui ont des réactions hystériques par rapport à leurs collègues. Et ensuite, on évolue petit à petit vers quelque chose du film de la Nouvelle Vague, quelque chose de romérien, avec des amours dans les champs et au bord de la rivière, puis un récit d'amour enchâssé, une romance qui nous rappelle presque Emmanuel Mouret, donc changement de tonalité complète, pour terminer dans le grand large, qui est celui du western.
Alors qu'est-ce que Alice Leroy vous dirait de ça ? Parce que c'est à la fois celui du western, mais on pourrait dire que c'est aussi un anti-film de western. C'est aussi un contre-polar, c'est aussi presque un anti-film de retour à la nature, parce que ça marche pas tout à fait. On a l'impression qu'à chaque fois, il s'agit de déjouer le genre dans lequel on a l'impression que Rodrigo Moreno veut emmener son spectateur ou sa spectatrice.
Oui, le film échappe sans cesse à ce qu'il semble être à première vue. Mais peut-être, je pensais que ce serait intéressant de resituer un peu le film dans le contexte économique et politique dans lequel il arrive aujourd'hui, parce que depuis décembre dernier, le président argentin, donc Javier Milei, et cette espèce de, bah, je crois qu'il se définit lui-même comme un anarchiste capitaliste. Donc c'est une sorte de fou furieux qui a pris pour cible à peu près tous les services publics et qui a commencé à démanteler notamment, entre autres, la culture et le cinéma. Donc il a privatisé l'école de cinéma. Il va mettre un terme à l'histoire des grands festivals de cinéma comme Mar del Plata. Enfin, c'est une tragédie là ce qu'est en train de vivre l'Argentine en termes de politique culturelle et de politique économique. Et donc, dans ce grand mouvement de destruction, en fait, des institutions publiques de soutien de la création cinématographique, on a paradoxalement un cinéma argentin qui n'a jamais été aussi florissant en termes de nombre de films produits. Je crois qu'il y en a plus de 200 cette année. Et en termes aussi de reconnaissance internationale.
Oui, le dernier numéro des Cahiers du cinéma titrait justement là-dessus, sur cette puissance du cinéma argentin comme un des plus importants contemporains. Donc, comment est-ce que, enfin, pourquoi et comment est-ce qu'on inscrit ce film-là là-dedans ?
Bah, il y a une sorte de paradoxe qui est que, par exemple, enfin, le collectif El Pampero qui est mis en valeur dans le dernier numéro des Cahiers, qui est un collectif de 4 cinéastes qui a déployé une ingéniosité absolument extraordinaire pour résister aux difficultés économiques de l'industrie du cinéma, a réinventé complètement des modes de production en adoptant tous les rôles, c'est-à-dire que certains sont réalisateurs sur un film et puis sur le film suivant ils deviennent producteurs, acteurs, voilà, ils changent de rôle à chaque fois et ils ont appris à tourner dans des conditions extrêmement précaires avec peu d'argent sur des durées, donc des années très très longues en se débrouillant, c'est de la bricole et de la débrouille. Et d'une certaine manière, le film de Rodrigo Moreno, il s'inscrit complètement dans cette dynamique-là. Alors Moreno fait pas partie du collectif El Pampero, en même temps il est lié à une revue de cinéma à laquelle participe aussi Mariano Linas, qui est l'un des membres d'El Pampero, qui a fait La Flore, un film extraordinaire, encore plus long que celui-ci, qui était sorti en 2017, je crois. Et on voit bien que finalement, Los Delincuentes, c'est l'adaptation d'un film plus ancien argentin de 49 qui s'appelait L'affaire de Buenos Aires. Mais on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est pas du tout le polar ni le film de braquage. Et que très vite, il s'agit de faire une fable sur le rapport entre l'argent et la liberté. Et où on voit que finalement, l'argent volé à la banque n'est pas un gage de liberté. Hein, l'argent ne suffit pas au bonheur. Et en même temps, le film, du coup, va détourner cette opposition un peu facile qu'on aurait pu faire entre le travail, la liberté, la ville, la campagne, l'asservissement, et puis au contraire, l'utopie communautaire.
Raphaël.
Oui, effectivement, le film se détourne du genre, mais enfin du genre du film noir, mais il en garde ce qui, à mon avis, en fait le charme aujourd'hui. C'est pas forcément les intrigues, mais c'est son ancrage urbain, et c'est ça qui est assez frappant dans la première partie du film, c'est le fait que justement on voit la ville de Buenos Aires, qu'on voit les passants, on voit les vitrines, on voit
oui, d'ailleurs il y a des travelling entiers sur des bâtiments emblématiques ou pas d'ailleurs de la ville.
Absolument, oui. Et ça, cet ancrage est très très fort, et il me semble qui se rarifie dans le cinéma, même des films qui sont tournés dans les rues, en général finalement on voit pas de passants et on se resserre sur les personnages, ou alors on a des figurants voilà, qui ne... et la ville n'est pas documentée en tant que telle, alors que là il y a vraiment un souci de documenter la ville, et c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les films noirs des années 40-50 américains. Mais donc j'imagine que, j'ai pas vu le film d'Hugo Frégonès dont il s'inspire, mais j'imagine que c'est un peu la même chose. Donc ça c'est en quelque sorte, pour moi, c'est la substance du film noir, c'est la ville, c'est pas tellement les intrigues et les vols et compagnie. Par ailleurs, effectivement, le film travaille cette sorte de couplage entre l'argent et le temps. Hein, on connaît cette fameuse maxime « le temps, c'est de l'argent » qui voilà, héritée, disons, du protestantisme. Et toute la question, ça va être... Et finalement, le personnage lui-même s'inscrit là-dedans avec un calcul rationnel. C'est pas un vol démesuré.
Enfin, l'inverse, il dirait « l'argent, c'est du temps. Voilà. Si je prends cet argent, ça me donnera du temps. »
Voilà, exactement. Il renverse l'adage, mais il reste quand même dans un calcul rationnel, finalement presque raisonnable, puisqu'il ne vole que son salaire. Et d'une certaine manière, il ne cherche pas à avoir une...
Vie, que le salaire qu'il aurait eu pendant 20 ans, voilà, s'il était resté dans la banque.
Voilà, c'est ça. Mais donc du coup, il prend une avance sur son salaire en le découplant du travail. Mais c'est un calcul assez particulier qu'on voit finalement peu dans les films de braquage où il s'agit juste d'emporter le plus possible. Alors, à partir de là, ce qui est frappant dans le film, c'est que finalement, ce temps qu'il se libère ou qu'il est censé se libérer, on ne le verra jamais, puisque le film s'achève au moment où justement il sort de prison. Et durant les 3 heures de film, on pourrait se dire « bon, ben, on va le voir jouir de cette liberté », et finalement non. Mais il y a quand même un moment où son rapport au temps se transforme, et il n'est pas tellement lié justement à la libération de prison, mais il est lié à la création d'une forme de continuité dans l'expérience de la durée. S'il y a une séquence vers la fin où il est en train de lire un poème qui s'appelle « L'obsession de l'espace », si je ne me trompe pas. Mais ce qui est intéressant là-dedans, évidemment, bon, on peut se dire qu'il est enfermé et puis il y a l'espace grand ouvert qui s'ouvre à lui à travers ce poème. Mais ce qui est intéressant, c'est comment le film crée des effets de continuité. Il continue à lire, à réciter ce poème le jour, la nuit, etc. Et finalement, à ce moment-là, on sent qu'il y a un autre rapport au temps qui se noue à l'intérieur même de la prison, où par ailleurs le cahier lui dit Ici, on a tout le temps du monde, sauf quand on est au téléphone. Et au téléphone, il faut, quand on téléphone à l'extérieur, il faut se dépêcher. Et donc, toute cette question de du rapport contraint au temps, en fait, il se matérialise aussi bien en prison qu'à l'extérieur. Et toute la question, ça va être de savoir, bon, bah, au fond, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là et quelle expérience on a d'un temps qui n'est plus réglementé, enfin, ou en tout cas organisé par le travail, les horaires, etc.
Oui, alors justement, sur ça, Salima Tenfish, parce que bon, on pourrait dire que d'une certaine manière, le message est très clair, plutôt 3 ans et demi de prison que 20 ans de travail. Mais comment est-ce qu'il en fait autre chose qu'une simple déclaration politique ? Est-ce que c'est précisément parce que le film prend lui-même quand même le temps de se raconter ? Il est long, mais il fait aussi des détours, il y a quelques accélérations, mais il y a aussi beaucoup de... Il y a des flashbacks. Enfin, on est dans une narration assez éclatée. Est-ce que c'est au fond la coïncidence, je dirais, entre la matière formelle qu'on nous donne à voir et le discours qu'il pourrait porter qui en fait sa réussite, si c'en est une ?
Oui, complètement. C'est-à-dire que l'esprit de liberté qui est au cœur de ce film, et je dirais même plutôt l'acte de libération, d'affranchissement vis-à-vis de la servitude du salariat et donc de la dépendance à l'activité, à l'emploi. D'ailleurs, le film m'a fait penser à ce tout petit court-métrage qui s'appelle El Empleo, qui est aussi sur cette question-là de l'asservissement, la déshumanisation des hommes qui doivent travailler pour vivre. Donc la force du film, c'est de réussir à mettre en parallèle ce personnage de Morane qui, lui, fait acte de volonté. Et d'ailleurs, cette notion, cette question de la volonté, elle est présente par des tout petits détails dans le film, quand il est question à plusieurs reprises du fait d'arrêter de fumer et que c'est qu'une question de volonté. Lui fait acte de volonté, il se saisit de cet argent qui est là, qui lui permet de se libérer. Tandis qu'en parallèle, en fait, tout le film est monté...
Mais par ailleurs, il reprend une clope.
Et voilà, et c'est ça, parce qu'il a la volonté ou le désir de le faire. Donc il est à chaque fois, cette volonté, elle est toujours mise au service de son plaisir. Et en parallèle donc, de la vie de Morane, on suit cet acolyte malgré lui qui est Ramon, avec un jeu sur le nom. Donc tous les personnages du film sont des anagrammes de Ramon, Morane, Roman, Norma, Morna.
Ça c'est une question, pourquoi ? Vous l'avez compris comment,
parce que
ça
ajoute...
C'est des personnages interchangeables ?
C'est une allégorie.
C'est le fait que tous ces personnages sont des vies possibles de ces argentins de la ville d'un certain âge qui peuvent avoir différentes trajectoires. Mais ça ajoute une étrangeté. Je parlais tout à l'heure de Coris Maki. Ça ajoute quelque chose d'étrange, de drôle, de loufoque au film qui permet de jamais être ancré dans la réalité misérable de cet employé de banque qui veut se débarrasser de son costume, qui le présente comme forme de robot dès le début du film. Donc c'est toute la liberté de ton et formelle du film. Il y a plein de procédés filmiques qui sont là simplement pour le plaisir du film. Il y a des jump cuts, des split screens, un volet, donc des éléments qui sont au service de cet esprit de liberté, de plaisir formel du film et de passer à chaque fois, comme je disais tout à l'heure, d'un genre à l'autre pour échapper à cette vie morne de la ville dont Morane essaye de s'enfuir.
Raphaël Neuer.
Ce qui est aussi assez beau dans le film, c'est que d'une certaine manière, Morane, en faisant ce pari, de passer 3 ans et demi en prison, il fait aussi le pari que d'une certaine manière, les autres vont se soustraire au passage du temps et qu'ils vont l'attendre en dehors. Alors soit l'attendre par contrainte pour son collègue qui est embringué là-dedans, mais aussi l'attendre par amour, parce qu'à un moment il rencontre une femme et juste avant d'entrer en prison, et puis en gros il lui dit je reviens dans 3 ans et demi, et en réalité la vie des autres continue. Et donc là il y a aussi quelque chose d'assez douloureux dans le film et qui est très très beau sur le passage du temps. Et d'ailleurs tous les personnages ont la quarantaine, et c'est aussi quelque chose qui compte évidemment dans la construction des personnages, c'est-à-dire cette idée qu'ils sont quand même plutôt dans la deuxième partie de leur vie et que à ce moment-là ils sentent que il y a quelque chose d'inéluctable qui est en train de se jouer aussi pour eux.
Oui, mais sauf justement ce que je voulais dire tout à l'heure, la mise en parallèle, le personnage de Ramon, lui, est un personnage qui fait qu'attendre, en fait, qui est entièrement passif, et ce qui permet aussi de mesurer la décision.
Alors Ramon, c'est lequel, parce qu'on s'y perd.
C'est l'employé de banque qui retrouve.
Non, Ramon, c'est le cinéaste.
Roman, c'est donc l'acolyte et le collègue de banque de Morane. Et lui n'a rien décidé, justement. Et d'ailleurs,
c'est lui à qui son collègue a demandé de garder l'argent pendant 3 ans et demi. en lui disant qu'en gros, s'il ne le fait pas, il va le dénoncer comme complice.
Et docilement, de la même manière qu'il accepte son emploi, qu'il accepte sa condition quant à lui, il accepte de garder ce trésor qui finit sous une pierre. Et il n'y touche pas. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu imaginer dans un film de braquage classique, un rebondissement, où l'acolyte trahit son ami et récupère le pactole. Mais pas du tout. C'est pas du tout ce qui se passe dans le film.
Mais peut-être une des dimensions qui, moi, m'a beaucoup passionnée dans le film, c'est la façon dont il échappe à la fois au code du film de genre, parce qu'effectivement, effectivement, ces deux personnages interchangeables, hein, Moran et Roman, sont pas à la hauteur, ils sont pas taillés pour ce costume de braqueur et ils savent pas vraiment finalement quoi faire de leur rôle. Et en même temps,
ça n'a pas empêché Sidney Lumet de faire un après-midi de chien.
Oui, mais pour autant, je pense que le film se situe pas du tout dans cet héritage-là parce que il va vers une veine qui n'est pas non plus celle du réalisme. On aurait pu imaginer qu'il fasse un portrait très réaliste de la crise économique argentine, de ces hommes argentins confrontés à une impasse politique et comment en fait reconquérir une forme de liberté dans un pays où en fait on est dans une impasse politique totale. Parce que je trouve que la voie qu'il emprunte, qui est celle de la fable et qui, à mon avis, tire plutôt le film vers la littérature, en fait, même vers le jeu, en fait. Tous ces jeux que les personnages inventent entre eux. Ce que je trouve assez beau, c'est que rien n'est jamais résolu et il y a une manière, par exemple, de présenter tout ce monde, cet envers du monde urbain, qui est le monde de la campagne, qui pourrait être un endroit complètement idéalisé, qui pourrait être, en fait, la solution politique, une sorte de communauté utopique qui vivrait en retrait du monde dans cette province de Cordoba, qui est absolument magnifique. Et ben, en même temps, c'est pas non plus un paradis. Et cette petite communauté utopique est formée par les trois autres anagrammes de Roman et Moran, Norma, Morna et Ramon, qui sont ces cinéastes qui, en même temps, sont totalement improductifs parce qu'ils produisent rien, finalement. Hein.
Ils passent plus de temps à sauter dans la rivière.
Ils sont engagés dans la réalisation d'un film infini dont on comprend qu'il ne se terminera jamais, en fait, qui est le film de leur vie. En même temps, ils n'apportent aucune résolution à cette question du travail, du rapport entre travail et liberté.
Los Delincuentes, c'est signé Rodrigo Moreno et c'est sorti en salle mercredi dernier.
L'esprit critique. Mediapart.